toujours très honoré d'être ici, parce que je crois que je suis un peu le seul politiste à avoir déjà même eu la parole. Maintenant, je dois la partager, bien sûr, c'est un peu rétrogradé, un peu, mais petit à petit, la prochaine fois, ce sera 3, j'aurai un petit tiers, peut-être, quoi, mais on se demande pourquoi. Et du coup, bien sûr, je vais faire plutôt le politiste de service, parce que je suis pas juriste et je suis bien incapable de jouer les juristes. Et de ce point de vue, donc, disons que ma spécialité, ça peut être effectivement d'essayer de mettre Raymond Salaÿ constitutionnaliste en contexte. Et autour d'une thèse, qui se veut un peu divergente par rapport à ce que l'on dit de Raymond Salaÿ en général, je voudrais essayer de suggérer là que Raymond Salaÿ a participé d'un mouvement de délégitimation de la République républicaine. C'est ma thèse principale. L'idée, c'est que en sciences politiques, on considère que les analyses sur les changements de régime insistent sur le fait que un nouveau régime est définitivement installé et consolidé quand il s'impose comme, selon la terminologie en sciences politiques, le seul jeu en ville, c'est-à-dire quand aucune forme alternative de régime ne peut véritablement être envisagée au régime en place installé. Or, Salaÿ, c'est ma thèse, en tant que constitutionnaliste militant, a participé de la construction et du développement de la diffusion d'un modèle constitutionnel fondé sur des bases alternatives de celles de la République républicaine. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il a mis à disposition des instruments intellectuels, des catégories juridiques permettant de remettre en cause les fondements théoriques intellectuel du régime républicain tel qu'il fonctionne quand il écrit et tel qu'il a été construit notamment par ce que j'ai appelé les légistes républicains sur lesquels je reviendrai. Et dans une certaine mesure, c'est pas tout, parce que le droit constitutionnel de son époque est un droit qui est très peu autonome de la politique. Raymond Salaÿ a entrepris pratiquement de diffuser ces catégories le plus largement possible dans le champ politique, et dans une certaine mesure, le champ politique a réceptionné ces catégories dérogeant aux principes républicains. Et donc, de ce point de vue, ce que je voudrais essayer de faire passer, c'est que Raymond Salaÿ peut être considéré comme je voudrais présenter un Raymond Salaÿ de combat, en quelque sorte, plutôt qu'un Raymond Salaÿ un peu éthéré, comme on a l'habitude de le voir habituellement. Et dans une certaine mesure, il me semble justement que ce texte donc qu'on a fait traduire chez Dalloz permet d'avoir une idée de ce Salaÿ de combat. Cette thèse, je voudrais essayer de la défendre autour de deux points, peut-être qu'il y en aura un troisième en cours de route, mais normalement il y en a deux principaux qui sont d'abord de voir comment Salaÿ s'est attelé à construire une science du droit constitutionnel autour d'un rôle social de constitutionnaliste, puis je voudrais voir Salaÿ comme homme de combat dans un second point. Donc d'abord, comment Salaÿ s'est attelé à la construction d'une science et d'un rôle social. Puisque je dois présenter Salaÿ en contexte, je dois faire un petit détour préalable pour donner quelques éléments sur ce qu'est le droit constitutionnel de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire au moment où Salaÿ écrit le texte dont on a parlé. De ce point de vue, il faut bien sûr avoir à l'esprit que le droit constitutionnel de cette époque n'est pas le droit constitutionnel que nous connaissons. Ce n'est pas une discipline juridique autonome avec ses catégories canoniques, ses professeurs spécialisés, voire, je ne sais pas très bien comment il faut dire ici pour être dans les bonnes catégories, mais son tribunal et sa jurisprudence spécifique, sa juridiction spécifique. Pour le dire simplement, la science du droit constitutionnel n'existe pas. Il faut très largement l'inventer à la fin du, dans les années 1880, disons. Et de ce, enfin, une petite indication de ce qu'est le droit constitutionnel de cette époque, c'est-à-dire pas grand-chose, est donnée par un témoignage de René Capitan sur Carré de Malberg, qui était chargé de cours, jeune chargé de cours de droit constitutionnel en 1894, donc exactement au moment où Saleil écrit, et qui avait l'habitude de demander à ses jeunes collègues, je cite, qui trouvait le professeur de droit constitutionnel pour le guider alors ? De grands noms, certes, de philosophes, de politiques, d'historiens, de poètes et de romanciers, Montesquieu, Rousseau, Sieyès, Chateaubriand, Benjamin Constant, Lamartine ou Victor Hugo, qui ont décrit la séparation des pouvoirs, défini ou exalté la démocratie, analysé le régime parlementaire, mais rien ou presque rien qui ressemblât à un traité de droit constitutionnel tel qu'il pouvait se concevoir en droit privé. Et donc, comme le dit Carré de Malberg, on est là, très loin, d'un droit formalisé, systématisé, à l'image du droit civil, avec ses lourds traités. Et on a même sans doute une difficulté supplémentaire quand on est un jeune professeur de droit constitutionnel à l'époque, c'est d'être confronté de fait à un texte qui est, comme vous le savez, un texte extrêmement lacunaire, peu codifié, en quelque sorte béant, et de ce point de vue, il a l'avantage de laisser la place à l'interprétation, mais en même temps, étant donné qu'on n'a pas vraiment de principe d'interprétation codifié, le travail qu'il laisse au premier professeur de droit constitutionnel demeure considérable et sans doute un peu tétanisant pour ces premiers jeunes professeurs de droit constitutionnel. Et donc, dans ce contexte, il faut inventer le droit constitutionnel, et en sciences politiques, ce qui va immédiatement avec, c'est qu'il faut inventer le rôle social du professeur de droit constitutionnel. Pour le dire simplement, qu'est-ce qu'un professeur de droit constitutionnel ? C'est pas si simple que ça de le savoir quand on est un jeune Raymond Saleil qui prend le cours de droit constitutionnel. Un cours de droit civil, un professeur de droit civil, ça existe. Un professeur de droit romain, ça existe sur des modes routinisés. Au moment où Saleil prend son cours d'éléments de droit constitutionnel en 1889, c'est-à-dire au moment même où ce cours de droit constitutionnel est créé, donc il crée ce cours de droit constitutionnel à Dijon, d'éléments de droit constitutionnel à Dijon, il doit rechercher comment façonner son rôle de constitutionnaliste, comment opérationnaliser son rôle de constitutionnaliste. Et de ce point de vue, pour simplifier un peu, il y a sans doute deux manières d'incarner le rôle de constitutionnaliste à l'époque qui sont en quelque sorte disponibles et que Raymond Saleil pourrait prendre à son compte. La première manière, c'est la manière de ceux que j'ai appelés des légistes d'État républicains. Et la seconde, c'est un rôle défini autour de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc Raymond Saleil aurait pu construire son rôle de constitutionnaliste autour du rôle de légiste d'État, c'est-à-dire de professeur de droit, de professeur de droit directement au service du pouvoir politique central républicain. Et j'ai essayé de montrer dans ma thèse comment un certain nombre de professeurs ont comme ça incarné et construit ce rôle de légiste républicain. Je pense au premier professeur de droit constitutionnel de la faculté de droit de Paris, parce qu'ils étaient situés tout particulièrement à Paris, que sont Philippe Jalabert, Adhémar Esmain ou Ferdinand Larnaud. Donc ce rôle de légiste d'État au service de la République est disponible, mais Saleil, sans doute, est nettement trop hostile à la République républicaine telle qu'elle fonctionnait pour endosser ce rôle, et très rapidement dans les écrits même de Saleil, on se rend compte que cette figure du légiste est plutôt avilissante pour le jurisconsulte, et ces légistes vont servir plutôt de figure repoussoire pour Raymond Saleil. À côté donc de ces légistes de l'État républicain, on a la deuxième manière de faire du droit constitutionnel ou de l'analyse savante des institutions politiques, c'est celle de l'Académie des sciences morales et politiques. Et ce qui est frappant quand on regarde le champ des études scientifiques sur l'analyse des institutions politiques des années 1880, c'est, ça semble un peu bizarre peut-être même aujourd'hui, et j'en avais discuté un peu notamment avec Christophe Charles qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi, mais c'est la place centrale de l'Académie des sciences morales et politiques dans cette analyse savante des institutions politiques, et tout particulièrement d'Émile Boutmy, le directeur de l'École libre des sciences politiques, qui intègre l'Académie des sciences morales et politiques en 1880. Très largement, il semble que Salleil, comme beaucoup d'autres professeurs de droit constitutionnel de province, ceux qui donc n'avaient pas fait le choix politique et scientifique de devenir des légistes d'État, se positionnent dans la construction de leur rôle de constitutionnaliste vis-à-vis, par rapport, en empruntant des éléments du directeur du rôle de constitutionnaliste formulé par le directeur de l'École libre des sciences politiques. Il faut dire donc que dans les années 70-80, vous le savez peut-être, mais Boutmy n'avait cessé d'harceler les facultés de droit pour dire combien les professeurs de droit civilistes, exégètes, étaient des incapables notoires pour analyser les constitutions politiques. Il discréditait systématiquement ses professeurs de droit, et notamment il les discréditait autour du fait que ses professeurs de droit civil utilisaient uniquement la méthode déductive dans leurs analyses, et que cette méthode n'était pas adéquate pour étudier les constitutions politiques. Boutmy, lui, se réfère ouvertement au paradigme de l'école historique du droit, et tout particulièrement à l'interprétation qu'en avait faite Laboulaye. Et de ce point de vue, Émile Boutmy va incarner la figure du nomothète de l'étude du droit constitutionnel. Pour le dire rapidement, pour le directeur de l'École libre des sciences politiques, les mécanismes constitutionnels n'avaient pas de valeur indépendamment des forces morales et sociales qui le supportaient, et c'était donc elles qu'il fallait d'abord et essentiellement étudier. Et donc il me semble que pour construire son rôle de constitutionnaliste, Salleil va faire de Boutmy une sorte de partenaire concurrent. Il le fait notamment il formalise le rôle de constitutionnaliste, notamment dans un texte de 1890 à la Revue internationale de l'enseignement supérieur sur l'utilisation de la méthode historique, où il entreprend clairement de répondre à Boutmy sur cette incapacité des professeurs de droit à analyser les constitutions politiques. Et dans ce texte, Salleil défend une double méthode articulée entre les méthodes traditionnelles des professeurs de droit, la méthode déductive donc, et la méthode du droit constitutionnel telle que définie par Boutmy autour de la méthode d'observation. Et de ce point de vue, il insiste sur le fait que le constitutionnaliste ne peut se tenir à la lettre du texte constitutionnel, car une institution de droit public ne fonctionne finalement jamais d'une façon absolument conforme à la loi. La pratique apporte toujours certaines déviations à l'application de cette loi, et des déviations imprévues, et ce sont ces déviations qui forment des traditions que le constitutionnaliste doit prendre en compte. Le constitutionnaliste, de ce point de vue, selon Salleil, doit étudier la constitution normale du pays, c'est-à-dire une constitution qui est conforme au génie traditionnel de la race et au développement historique du pays. Ce qu'il appelle à la suite de Boutmy, bon, cet élément, la constitution organique d'un pays, c'est ce que le constitutionnaliste doit étudier d'abord. Les constitutions écrites proprement dites ne devant elles-mêmes être que considérées comme des manifestations extérieures de ces constitutions organiques. Pour interpréter la constitution écrite, il convient donc de se référer aux manifestations de la constitution organique. Un usage constitutionnel sera considéré comme légitime par le constitutionnaliste seulement s'il est conforme au développement historique et traditionnel de la nation. Donc, au total, il y a place pour une double méthode, alliant méthode d'observation et méthode déductive. Le constitutionnaliste doit bien examiner les phénomènes sociaux selon la méthode d'observation pour prendre en compte le développement progressif, pratique des forces sociales sous-jacentes aux institutions politiques, et par ce biais il rassemble son matériau. C'est le volet de la méthode d'observation empruntée à Boutmy, mais il existe un second volet dans le travail du constitutionnaliste qui fait appel cette fois-ci à la méthode déductive propre au professeur de droit. Il doit trouver ce constitutionnaliste au cœur de ce matériau ainsi rassemblé, les lois générales qui ont aidé au progrès de l'humanité dans un sens de justice sociale et d'équité. Une fois trouvées ces lois, ces principes juridiques, le constitutionnaliste doit encore adapter ces lois à la structure de la société ici et maintenant, et donc c'est sur cette base qu'il interprète les règles constitutionnelles. Le jurisconsulte doit donc constitutionnaliste tout particulièrement, doit donc dégager et proposer des institutions juridiques adaptées aux besoins objectifs, c'est ce que dit Saleil, d'une société particulière à un moment donné de son histoire. Et donc, sa conclusion, c'est trouver ces lois et les adapter aux besoins de la société moderne, diriger en ce sens l'évolution du droit constitutionnel. Telle est la mission de la doctrine, tel est son programme à la fois scientifique et patriotique. Et donc, on voit là un rôle social du constitutionnaliste déroger complètement au rôle de légiste de la République en donnant une certaine autonomie à la doctrine constitutionnelle. Ce rôle, il a une dimension pratique et politique immédiate. Le constitutionnaliste doit, en conséquence de ce rôle, peser autant que possible dans la société pour permettre, selon un terme utilisé par Saleil, la réadaptation de l'état politique à l'état social existant. C'est la fonction du constitutionnaliste. Et donc, on a là nécessairement un rôle actif de diffusion des principes juridiques adaptés aux besoins de la société, c'est-à-dire à la définition particulière que cette société se donnait de l'équité et de la justice sociale. Et donc, en accord avec ce rôle, Saleil devait être un homme de combat et un partisan pour faire triompher ces principes en pratique dans l'espace public. Et donc c'est le deuxième point sur Saleil, homme de combat et partisan. J'ai essayé de le dire rapidement, on fait de temps en temps de Saleil un intellectuel un peu éthéré et fin de siècle. Et il me semble, moi, que c'était au contraire un homme de combat qui était très largement donc en lutte directe avec la République républicaine telle qu'elle fonctionnait au moment où il écrit. Et au concret, il me semble qu'il a participé à la délégitimation du régime républicain en proposant donc ces catégories constitutionnelles alternatives de la République républicaine. Et en quelque sorte, le rôle de constitutionnaliste qu'il avait formalisé l'obligeait, ce que je viens de décrire, l'obligeait à intervenir de manière pratique et tactique au sein de cet espace public pour faire triompher les principes juridiques dont il pensait qu'il représentait la justice sociale et qu'il avait formalisé. Donc selon moi, très largement, le texte du Dalloz peut être lu comme un programme politique. Et pour bien comprendre ce point, Il faut, me semble-t-il, c'est une de mes marottes, mais d'abord avoir à l'esprit combien le droit constitutionnel, dans ses premiers développements, était une science encastrée dans la politique. Il n'y avait pas deux sphères distinctes avec des principes d'action distincts comme cela existe aujourd'hui. Les républicains avaient conçu ces cours, les avaient formalisés comme des manières de légitimer politiquement la République naissante. C'était donc des instruments de combat encastrés dans la sphère proprement politique. Et de ce point de vue, on ne pouvait pas faire un usage du droit constitutionnel dans la sphère politique, puisque les deux étaient proprement indistincts. C'est ce que ce sur quoi je veux insister, ce qui veut dire que on n'avait pas eu ce processus d'autonomisation d'un savoir scolastique auquel on est arrivé aujourd'hui. Et de ce point de vue, donc, on ne pouvait pas construire de regard au second degré scolastico-juridique sur le monde politique par le biais des catégories de droit constitutionnel. Et de ce point de vue-là, il me semble que le droit constitutionnel, fut-il celui de Raymond Saleh, c'est-à-dire plutôt une forme scientificisée du droit constitutionnel de l'époque, répondait lui aussi à des déterminants proprement politiques. Et donc ce qui, moi, me frappe à la lecture de ce texte de 1895 qu'on a fait traduire, c'est bien, et peut-être que je tords un peu le bâton, mais voilà, pour le plaisir de la démonstration, c'est le ton de manœuvrier politique que Saleh adopte tout au long de ce texte. Et d'abord, ce qu'il préoccupe dans ce texte, essentiellement, c'est la structuration de la vie politique, qu'il trouve, qu'il considère comme le point central de sa démonstration. Ce point central de sa démonstration, il le définit autour du fait que pour que enfin la République ait une direction ferme, il faut l'avènement de deux grands partis structurés. C'est quelque chose qui est assez classique à l'époque, capable, comme en Angleterre ou en Belgique, d'alternance et soutenant donc tour à tour un gouvernement pour une période suffisamment longue. Et donc de ce point de vue, Saleh dans ce texte livre à une analyse de l'évolution des partis politiques sous la Troisième République. Ceci dit, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est qu'il ne s'intéresse pas du tout de la même manière aux partis de droite et aux partis de gauche. Ce sont essentiellement les partis de droite qui l'intéressent. Il s'arrête notamment longuement sur le parti monarchiste. En étant critique vis-à-vis de ce parti, à ceux donc, dit-il, qui croient que la solution serait le retour à la monarchie, il faut répondre que ces partisans ne se sont jamais donné la peine de définir un véritable programme social, se bornant finalement à l'invective personnelle. De plus, dit-il en ce qui concerne le parti monarchiste, le pouvoir personnel irresponsable du roi ne saurait se concilier avec le développement général du régime parlementaire. L'époque, constate-t-il, condamne donc ce principe monarchique. La monarchie devait être abandonnée, quand bien même elle assurait, et on peut penser qu'il y a un petit regret dans la voix du néo-légitimiste Saleh, quand bien même elle assurait ce principe d'unité, cette monarchie nécessaire au gouvernement de la France. Saleh, donc, entend dépasser les velléités monarchistes en s'efforçant de trouver une nouvelle politique qui permette à la fois de ménager, dit-il, la justice sociale et de ne pas détruire non plus le principe de liberté. Et pour y parvenir, il ne s'agit pas de compter sur le régime parlementaire tel qu'il a été appliqué depuis 15 ans, qui mène à la ruine. Quant au parti catholique conservateur traditionnel, Lui aussi, il est disqualifié par Saleh, comme le parti monarchiste. Il est en effet trop rigide, notamment quand il croit de son devoir de faire enseigner et défendre par l'État les principes chrétiens. De même, Saleh disqualifie, donc il passe en revue ses différents partis, le parti libéral, qui apparaît comme trop attaché à la doctrine du laisser-faire. Et à l'opposé de ces différentes options, Saleh définit le parti qui souhaite, lui, voir advenir comme celui qui, dit-il, favoriserait la limitation de l'État à un champ d'action minimum, mais sans soutenir l'idée de non-intervention dans les affaires qui lui appartiennent. Et ce parti doit donc être favorable à la liberté, dit-il, mais pas au libéralisme. Il indique ne pas avoir à désespérer de voir une nouvelle génération surgir en France sous la constitution actuelle afin de constituer un tel parti à la manière, dit-il, de ce que Disraeli a réussi à faire en Angleterre. Mais pour cela, il y a un petit élément de tactique politique indiqué directement par Saleh Manœuvrier, c'est qu'il faut reprendre également à son compte un élément dont a joué Disraeli, c'est le fait de donner un certain air de nouveauté dans la présentation des programmes politiques pour les faire triompher afin de se donner les atours de l'avant-gardisme politique. Et de ce point de vue, il me semble que très largement, Raymond Saleh adopte une rhétorique qui est pas loin de la rhétorique révolutionnaire conservatrice, c'est-à-dire donc une stratégie politique qui vise à reprendre à son compte les formes de l'avant-garde pour mieux, c'est l'objectif annoncé, pour mieux garantir la conservation de l'organisation du monde social. Et de ce point de vue, sur cette stratégie vis-à-vis des partis politiques, il me semble que Saleh se pose véritablement en meneur et en stratège politique d'une droite libérale et conservatrice. Cet appel en faveur de la structuration d'un grand parti libéral conservateur et il faut le souligner également donc au service de schèmes alternatifs de la République républicaine telle qu'elle fonctionne. Et à vrai dire, c'est notamment et peut-être d'abord dans la théorie de la souveraineté. Dans sa théorie de la souveraineté que l'on trouve un Saleh homme de parti essentiellement savinien, peut-être néo-savinien, contre-révolutionnaire et réactionnaire. C'est d'abord elle, sa théorie de la souveraineté nationale qui l'oppose à la philosophie des Lumières. C'est elle qui l'oppose à la théorie de la République républicaine telle qu'elle fonctionne alors, et c'est elle clairement qui l'oppose à la théorie de la souveraineté nationale telle que formalisée par les légistes de l'État républicain au moment même où Saleh écrit. Pour résumer rapidement, pour Saleh, l'organisation politique doit dégager la volonté nationale qui n'est pas celle, comme dans la théorie de la souveraineté nationale républicaine, d'un corps composé de la somme des individus qui le composent, mais bien plutôt, je le cite là, celle qui correspond vraiment au tempérament du pays et qui incarne, à un moment donné, ses besoins réels, ses désirs et ses tendances. Et de ce point de vue, la souveraineté ne saurait être incarnée dans un unique corps politique, composé d'individualités multiples, comme veulent le faire croire les républicains. Elle ne saurait pas plus appartenir à un organe unique, ce Parlement et peut-être plutôt cette Chambre des députés dont le triomphe est celle de cette classe d'accapareurs, c'est une citation de Saleh, qui est la moyenne bourgeoisie républicaine. La souveraineté doit s'exprimer de manière approximative par le biais de tous les organes politiques, sans exclusive. Et sans doute, avec cette théorie de la souveraineté, ce sont les constitutionnalistes eux-mêmes qui sortent très largement justifiés socialement, seuls ils sont à même de retrouver l'expression adéquate et rationnelle de la nation ainsi définie, c'est-à-dire donc cette complexité substantielle, historique et organique, transcendant les individus qui la composent, et pour Saleh, répondant toujours aux besoins de justice sociale et d'équité au sein d'une société donnée. Cette conception de la... cette conception, c'est trop long, non, déjà, quoi.
Pas du tout.
Cette conception de la souveraineté, cette conception de la souveraineté, elle incite sans doute Saleh, dans le texte de 1895, à défendre le bicaméralisme, ardemment le bicaméralisme. Le bicaméralisme doit servir à faire contrepoids à la tyrannie de la Chambre des députés. Et de ce point de vue, dans le texte de 1895, il se fait l'avocat en règle du Sénat, qu'il faut considérer, dit-il, comme la base de toute la structure constitutionnelle, puisque seule elle peut perpétuer, compte tenu de sa permanence, les traditions et une certaine unité de vue dans l'organisation politique. Et donc, conclut-il, c'est ce Sénat, c'est le noyau central de toute l'organisation politique, avec un laïus traditionnel, là encore, sur le bicaméralisme, l'assurance qu'offre le système bicaméral est celle d'une rédaction prudente des lois, le contrôle qu'il assure sur une action irréfléchie, la reconnaissance qu'il donne au double courant représentant à la fois la tendance traditionnelle ou conservatrice et de l'autre la tendance radicale et progressiste. Ce point du Sénat, de l'analyse du Sénat, Saleh le développe durant très longtemps dans ce texte, et notamment il analyse la réforme de 1884, et il analyse la réforme de 1884 tout particulièrement par le biais de la question des sénateurs inamovibles et de la suppression des sénateurs inamovibles. Et là encore, je vais le citer un peu, ou trop sans doute, il dit on pourrait regretter que certains hauts fonctionnaires n'aient pas eu le droit à un siège au Sénat. En outre, il y a des hommes, généralement ceux qui sont par eux-mêmes parvenus à des hauts postes, qui rebutent les concessions et la violence inhérente aux compétitions électorales. Leur place est au Sénat. Nous pourrions alors supposer que le Sénat sélectionnerait ces personnes dont les services seraient si précieux dans une haute assemblée et qui n'obtiendraient guère de siège par le biais d'une élection directe. Donc clairement, c'est une défense de cette solution des sénateurs inamovibles. Peut-être que Norbert y reviendra, qui étonnera pas. Compte tenu de la conception de la représentation politique chez Saleh, qui peut s'affranchir très largement, me semble-t-il, de l'élection même. Et on peut également souligner, en contraste, pour un point de ma démonstration, quand on lit Adhémar Esmin, l'un de mes légistes républicains, on a un autre son de cloche sur cette réforme de 1884. Esmin, dans son traité, dit « Par l'institution des sénateurs à vie, l'Assemblée nationale voulait opposer une barrière à la pure démocratie, établir un contrepoids à la loi du nombre, mais cette règle était justement trop contraire à l'esprit d'une démocratie, trop visiblement exagérée pour pouvoir subsister longtemps dans le milieu où elle était placée. La magistrature viagère était au fond inconciliable avec le principe de souveraineté nationale. » Donc la condamnation cette fois-ci est sans appel au nom de cette souveraineté nationale républicaine, celle-là même que ne reconnaissait pas Saleh, bien au contraire. Et finalement, dans ce texte, la seule réforme constitutionnelle en faveur de laquelle Saleh se prononce est une réformette constitutionnelle. Pour le dire simplement, elle consiste à raccourcir, alors il ne dit pas vraiment il ne va pas jusqu'à donner le détail de ce raccourcissement, mais à raccourcir le mandat du président de la République, sans toutefois valider l'élection du président au suffrage universel direct. Il est opposé à cette élection au suffrage universel direct. Et on peut remarquer au passage que dans ce texte de 1895, il s'excuse de proposer une réforme constitutionnelle. Là encore, il me semble en tacticien politique, parce que en 1895, on est 6 ans après l'aventure boulangiste, et la révision constitutionnelle est encore très largement tabou. Une révision constitutionnelle, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et ça le sera. Ça le sera jusque tard, même dans le XXe siècle. C'était donc ouvrir la boîte de Pandore d'une constituante et potentiellement remettre en cause la totalité du régime. La raison de cette suggestion de réforme constitutionnelle de Saleil est simple, selon lui, est simple et logique. Elle va dans le sens du renforcement de l'exécutif, pour lui, peut-être un peu paradoxalement. Dans le modèle qu'il appelle de ses voeux dans ce texte, ou qu'il voit se dessiner, c'est toujours difficile de savoir quelle est la bonne version. On a une majorité parlementaire qui est structurée autour d'un grand parti qui soutient solidement la politique du gouvernement durant une certaine durée, si ce n'est une législature entière, et le président de la République, selon Saleil, devrait également alors être solidaire politiquement de la majorité parlementaire pour donner une unité de vue à la politique du pays. Or, il constate que à l'heure actuelle, puisque le mandat présidentiel est plus long que le mandat parlementaire, il peut se trouver un président opposé à cette majorité, une sorte de cas de cohabitation, ce qui affaiblirait l'autorité du président de la République. Pour qu'une majorité parlementaire, le gouvernement et le président de la République soient politiquement solidaires, de manière à donner une direction ferme au pays, il convenait donc de réduire, de raccourcir le mandat présidentiel pour que très largement, il corresponde le plus possible à la législature. Telle idée, donc la réforme projetée, encore une fois dans ce texte de Saleil, ce qui me semble intéressant au passage, c'est que il la présente comme un hommage à la République, puisque c'est un hommage à l'élection du chef de l'exécutif, et de ce point de vue, sa préoccupation est toujours de rendre compatibles ses propositions, le plus compatible possible, ses propositions de réforme, en tant que, comme, selon moi, homme politique réaliste, avec ce qui est faisable politiquement et constitutionnellement au moment où il le propose. Pardon ?
C'est encore une heure.
Non, mais je suis pas. Ouais. Enfin, juste, je voulais dire quelques. Là aussi, éléments. Éléments de choses que vous connaissez peut-être ou sans doute, c'est quelques mots sur les relais sociaux que Raymond Saleil pouvait avoir afin d'actualiser son rôle social de constitutionnaliste néo-savinien, mais aussi afin de faire triompher donc sa stratégie et son programme politique. Et l'idée, c'est qu'affirmer qu'il a participé à la délégitimation de la République républicaine, ce n'est pas seulement situer son action dans le ciel des idées. Et d'ailleurs, ce n'était pas comme ça que lui concevait son action. De ce point de vue-là, on sait que Saleil, c'est un grand promoteur d'œuvres pratiques, un grand organisateur. Et c'est sans doute par là aussi qu'il a eu une influence décisive. Pour faire court, on sait, vous savez, que Saleil a été le grand organisateur et la cheville ouvrière du Congrès de droit comparé de 1900. Dans ce Congrès de droit comparé, il a joué un rôle absolument décisif. De ce point de vue, il faut aussi peut-être dire un mot de ce congrès de droit comparé, me semble-t-il, sur le plan de l'histoire sociale, un mot rapide, c'est qu'il me semble que c'est le premier congrès scientifique réel dans l'univers des facultés de droit. Jusque-là, on avait des congrès de politique juridique, mais pas de congrès véritablement scientifiques dans le champ juridique français. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est très largement Raymond Saleil qui a participé à la définition de cette arène comme une arène scientifique. Autre caractéristique, me semble-t-il, de ce moment, qui est vraiment un moment, encore une fois, je parle devant des experts, mais un moment décisif pour la science juridique, c'est que l'une des premières manifestations au sein de laquelle les professeurs de droit, me semble-t-il, peuvent présenter leurs mémoires, leurs travaux, devant un parterre nourri d'hommes politiques et d'administrateurs, de sorte que ce congrès peut être considéré comme un outil pour inscrire à l'agenda politique certaines réformes, une caisse de résonance décisive pour faire passer un certain nombre de réformes pensées et formalisées dans les facultés de droit. Or, il me semble que Saleil va faire cet usage précisément du congrès de droit comparé et notamment va l'utiliser pour promouvoir la représentation proportionnelle directement dans le champ politique. Et de ce point de vue, une fois encore, on a une entreprise qui est tout à la fois indistinctement politique et juridique, encore une fois, en compatibilité avec le rôle social que Saleil avait constitué. On sait que un an auparavant, en 1898, Norbert l'a rappelé tout à l'heure, Saleil avait écrit un long article sur la représentation proportionnelle dans la RDP. Pour le dire rapidement, là encore, trop rapidement pour vous sans doute, mais la représentation proportionnelle pour Saleil permettait de représenter tous les intérêts sociaux. Elle permettait de faire de la loi le résultat d'un compromis entre tous les partis, et de ce point de vue, elle permettait la paix sociale, l'assimilation, je le cite, progressive de tous les éléments composites de la société en vue d'une transformation lente et graduelle du monde social. De sorte que, pour Saleil, cette réforme doit devenir la réponse à la crise du parlementarisme qu'il avait identifié. De ce point de vue, il me semble qu'on peut juste s'amuser, mais je ne sais pas si on peut se moquer un peu de Saleil dans cette enceinte, mais sur le fait qu'il me semble, moi, parce que je suis politiste, donc il y a eu du verger entre-temps, mais que la grande réforme, c'était la structuration de deux grands partis politiques solides, et que donc la réforme principale pour arriver enfin à structurer la vie politique française autour de ces deux grands partis, c'est l'instauration de la représentation proportionnelle, dont on sait qu'elle fragmente plutôt, selon la célèbre loi de Duverger, la vie politique. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il y a une petite contradiction, mais qu'il y a une petite contradiction qui, moi, me semble en fait pas une contradiction du tout théorique, mais une contradiction qui porte juste sur son positionnement politique à ce moment de l'histoire et au changement qu'il opère dans sa stratégie qui est d'essayer de faire passer une réforme, la réforme du mode de scrutin, qui est une réforme qui est envisageable dans le champ politique, parce que c'est une réforme, et qui est envisagée du reste dans le champ politique, soutenue très largement, parce que c'est une réforme qui, elle, n'ouvre pas cette fameuse boîte de Pandore, n'ouvre pas le consensus républicain entre élite républicaine et élite républicaine au sens large. Et de ce point de vue-là, il y a un aspect stratégique dans la défense de cette réforme. Et il y a un aspect stratégique aussi dans la manière dont Saleil construit la table ronde de droit public au congrès de droit comparé, c'est-à-dire qu'il y a une table ronde qui est consacrée à la représentation proportionnelle, qui est uniquement peuplée de défenseurs acharnés, militants quasi-politiques ou savant de la représentation proportionnelle. Et la conclusion d'Achille Metz formidable, c'est il semble que finalement il y ait une sorte de consensus pour faire adopter cette réforme du mode de scrutin finalement dans les sphères savantes et donc dans la théorie de Saleh, du coup en droit positif. Et voilà, et donc je peux cette fois-ci, là j'ai été vraiment trop long, terminer là-dessus avec l'idée que on a un Saleh, stratège politique, qui essayait de réformer le régime républicain de l'intérieur, me semble-t-il. La réforme du mode de scrutin, c'est vraiment le ver dans le fruit de la République. De ce point de vue, il a participé activement par le biais de ce congrès, pas seulement par le biais de ce congrès, mais également, il faut quand même que je la cite, par le biais de l'organisation de la Société d'études législatives, qui avait exactement le même but, c'est-à-dire rassembler des hommes politiques et des juristes pour faire passer les réformes juridiques dans le champ politique, participer à la délégitimation de la République républicaine, pas la République tout court, la République républicaine tenue par les républicains. Voilà un Saleh en contexte militant.